Vous pouvez ouvrir avec moi, si vous voulez bien, ce matin, le premier livre de Samuel au chapitre 15. Le PowerPoint s'affiche. Nous allons encore un ou deux dimanches terminer la question, enfin c'est plus qu'une question, cette thématique tellement importante de la restauration. Et je le termine aussi avec cette question si importante de la repentance, de comprendre que la repentance, l'appel de Dieu à la repentance, est une véritable grâce, que c'est un principe de bénédiction, comme nous l'avons vu, et que c'est réellement une grâce que Dieu fait à tout un chacun, pas seulement au démarrage de notre vie chrétienne avant d'entrer dans la vie nouvelle, mais aussi tout au long de notre marche avec Dieu, de savoir vivre avec un cœur repentant et qui manifeste les mêmes dispositions qu'au début de notre venue à Christ. C'est un principe de bénédiction. Le principe de tout principe, c'est qu'il s'applique sans condition. Et le principe, c'est que ce principe de bénédiction, si c'est une grâce, il est aussi incontournable. Le Seigneur ne fera jamais, vous prenez la parole de la première à la dernière page, le Seigneur n'a jamais fait d'impasse sur ses principes, il n'a jamais baissé la barre, excusez-moi, il n'a jamais bradé son royaume, il n'a jamais fait les soldes, ni pour un pasteur, ni pour un disciple, ni pour une personne qui arrivait à lui la première fois. Les principes du royaume de Dieu restent et demeurent toujours les mêmes, immuables. Et la repentance est un principe, bien sûr, de bénédiction, parce qu'elle va nous éviter de nous fourvoyer, de nous enfoncer, comme on va le voir ce matin avec l'exemple du roi Saül. Elle va nous éviter de nous fourvoyer, de nous enfoncer dans nos péchés, dans nos manquements, mais aussi parce qu'elle est réellement libératrice de bénédiction. Et c'est ce que nous avions vu en premier lieu. Repentez-vous, dit Jean-Baptiste, aplanissez le chemin du Seigneur, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Pourquoi ? Parce que si le Seigneur demande une repentance, s'il veut que le chemin de mon cœur soit toujours bien propre et bien dégagé, c'est pas pour m'embêter. C'est parce qu'il sait qu'il vient avec son cortège de bénédiction, c'est parce qu'il y a la promesse d'une visitation à venir. Et on a vu que ce principe ne dépend pas, tout est en ligne, mais je rappelle rapidement pour ceux qui nous rejoignent, le principe de la repentance ne dépend pas de nos blessures passées. Nos blessures ne nous dispenseront jamais de nous repentir si nécessaire. Cela ne dépend pas non plus de mon pourcentage de tort. Que j'ai 10% de tort ou 90% de tort dans une histoire, dans des conflits, même si j'ai 10% de tort, je vais régler ce que j'ai à régler avec qui je dois le régler. Parce que je veux que la route de mon cœur soit nickel, qu'elle soit propre, qu'elle soit bien belle. Parce que je sais que mon Seigneur vient, il veut me visiter, il veut me bénir. Et je veux lui laisser le champ libre pour qu'il puisse toujours agir comme il le désire, en moi d'abord et aussi autour de moi. C'est ce qui fait de la repentance un message, même s'il est dur au premier abord, un message de grâce. On a vu la semaine dernière, et je vais rester sur ces deux premiers points. On a vu que la repentance commence toujours par une authentique prise de conscience, une conviction intérieure. Le fils prodigue étant, dit le livre de Luc, étant rentré en lui-même, il a fait un constat honnête de la situation. Et c'est toujours une conviction de ce que nous avons fait ou pas fait, de ce que nous avons été. C'est toujours le constat honnête de nos comportements, de certaines attitudes, d'un état d'esprit, d'une mentalité, de certains sentiments, de certaines pensées. En d'autres termes, il faut appeler un chat, il faut toujours regarder les choses en face. Dans la grâce de Dieu, mais il faut regarder les choses en face. Et ce que le Seigneur appelle péché, c'est à nous aussi de l'appeler péché. Voilà, si c'est du péché, excusez-moi, c'est pas du thé à la cerise. C'est pas si grave. Le péché, c'est ce qui est contraire à la nature de Dieu. Je sais que ça, c'est difficile, même pour les chrétiens évangéliques que nous sommes, parce que nous avons et ce matin, je vais encore le démonter, nous avons des classifications de péché inconscient en nous. Comment un homme comme David, avec ce qu'il a fait, a pu être restauré comme ça?
Comment le roi Saül, pour une petite désobéissance, pour une petite impatience, s'est entendu dire « Je déchire de toi la royauté, je la donne à un autre qui est meilleur que toi ». Excusez-moi, est-ce qu'il y a un bon Dieu pour les alcooliques ? Il y a un bon Dieu pour les adultères ? C'est ça que ça veut dire ? Et le Seigneur fait-il des différences entre les personnes ? Le Seigneur est-il plus compatissant avec les gros pécheurs ? Et en réalité, bien-aimés, nous avons des classifications inconscientes de péché. Et nous avons bien du mal à appeler un chat un chat. Le péché, hermantano dans le grec, ça signifie manquer le but, manquer la cible. Le péché, ce n'est pas seulement de faire des choses qui sont en apparence grossières, qui sont énormes et qui sont tellement répréhensibles. Non, le péché, ce n'est pas seulement l'alcool, la cigarette, la pornographie, le vol et le meurtre. Non, ce n'est pas juste ça, le péché. Vous savez, le péché, c'est vraiment manquer le but. Le péché, c'est ce qui est contraire à la nature de Dieu. Proverbe chapitre 6. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et même 7 qu'il a en horreur. Et la première de ces choses, ce que le Seigneur montre en premier, le regard hautain. Parce que c'est un fruit de l'orgueil. Et ça, il ne s'agit pas à ce moment-là de choses visible dans les actes, dans des faits concrets. Il s'agit de sentiments à l'intérieur du cœur. Il s'agit d'un état d'esprit, d'une mentalité. C'est ce qui était le plus gros problème de Saül, on va le voir. C'est vraiment, c'est l'orgueil, les yeux hautains. Regarder quelqu'un avec un air méprisant, avec un sentiment de suffisance, de supériorité. J'ai déjà manqué le but. Et mon cœur n'est déjà pas en phase avec le cœur de Dieu. Et le Seigneur il dit, ça, ce n'est pas du thé à la cerise, ça s'appelle du péché, parce que mon cœur à moi n'est pas comme ça. Et si je veux, si tu veux être béni, ce sont des choses qui doivent dégager. Oh, c'était, je suis désolé, c'était un petit mensonge. Le mensonge, c'est du mensonge. Le mensonge, c'est du péché. Le Dieu que je loue, que je prie, que je sers est 100% vérité. Il n'y a en lui aucune dissimulation. Il n'y a en lui aucune cachotterie. Le mensonge, c'est du péché. Il y a la médisance, c'est du péché. Prendre la calomnie, dire des choses fausses, c'est du péché. Mais la médisance, prendre des choses vraies au sujet de quelqu'un, les raconter à un autre pour pouvoir lui nuire. Mais j'ai dit la vérité. Hein. Mais le Seigneur, il dit, mais ça, c'est pas moi, ça. C'est hermantano, t'as manqué le but, t'as manqué la cible. Ça, c'est du péché. La critique, la dispute dans le couple, la querelle, c'est du péché. Je vous parlais de Proverbe 6, je fais quand même une pause, hein, j'oublie pas où on va, mais je veux vraiment, vous allez le comprendre encore plus ce matin avec l'histoire du roi Saül, mais je veux vraiment insister, je vous parlais du chapitre 6 des Proverbes. Il y a 6 choses que l'Éternel déteste et 7 même qu'il a en horreur. La première, c'est le regard suffisant. Le regard hautain. Et dans cette liste des 7 choses qui sont données, 3 choses, il n'y a pas l'adultère, même si l'adultère, on est d'accord, il y a 3 choses qui concernent directement l'usage de la parole, l'usage de la langue. Le livre des Proverbes dit que quelqu'un qui parle beaucoup, malheureusement, ne manque pas de péché. Et voyez toutes ces choses qui sont là à l'intérieur, plus ou moins des sentiments, un état d'esprit, des pensées, une façon d'être par derrière, un esprit de jugement sur quelqu'un. Dieu est l'esprit de grâce. Le légalisme, c'est du péché. La dissimulation, c'est du péché. La dispute, c'est du péché. La fausseté, l'amour de l'argent, c'est du péché. L'incrédulité, c'est du péché. La désobéissance, c'est du péché. Et ces choses-là, je sais, ce n'est pas simple, parce qu'on a inconsciemment des classifications. J'ai été flic, je sais ce que c'est, les grandes catégories. Il y a la catégorie des contraventions, avec les 5 classes de contraventions. J'apprenais ça par cœur à l'école de police. Puis ensuite, il y a la catégorie des délits qui iront devant le tribunal correctionnel. Puis après, il y a la catégorie de tout ce qui va être classifié en crime, etc. Et puis, on a des classifications grâce à un code pénal et un code de procédure pénale. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a rien de tout ça. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est manquer la cible, manquer le but. C'est mettre à côté. Aux yeux de Dieu, le péché, c'est juste ce qui est mal à ses yeux. Le péché, c'est tout ce qui est contraire à son cœur, à sa nature. Et c'est en cela que nous avons besoin aussi de comprendre et d'appeler les choses par leur nom et de savoir, vous l'avez compris, pas faire des introspections maladives, ce n'est pas le but, mais de regarder les choses nettement en face. Et parfois, le Seigneur, il peut me reprendre intérieurement. Enfin, j'espère qu'il a accès à chacun d'entre nous et qu'il a le droit de nous reprendre chacun comme il le veut. Puis des moments, ce que tu viens de dire là, c'est pas vrai. Et si j'entends jamais dans mon cœur une douce voix qui me dit « ça, c'est pas moi », je suis à côté du but. Il y a la prise de conscience, il y a la conviction de ce que je suis encore, de ce que je ne suis pas encore, qui doit être réglé par la grâce de Dieu. Et puis vient ensuite, logiquement, cette confession, parce que être conscient d'un état, être conscient d'un échec, d'une situation, d'une attitude, d'une pensée, peu importe, d'une faute, d'un péché, d'une omission ou d'une commission, peu importe, être conscient. Et en rester là, ça ne sert à rien. Les choses se règlent à cause de la puissance de nos paroles. Dieu attend de nous des mots simples, des mots clairs, simples, mais des mots nécessaires, des mots qui font partie de la puissance de nos paroles. Et c'est une façon pour nous de montrer à Dieu quand nous lui disons, Seigneur, il y a ça dans mon cœur. Tu sais toutes choses. Tu lis en moi. Je sais que ça ne te convient pas, Seigneur. Pour cette chose, je te demande pardon. Seigneur, change mon cœur. Change ma mentalité. Change mon état d'esprit. Donne-moi le cœur de Jésus. Donne-moi les sentiments qui étaient en lui. Ça s'appelle une confession. Mais en réalité, c'est une façon de montrer à Dieu que nous sommes vrais devant lui. Et c'est ça qui lui plaît. Et c'est ça qui l'honore. Ce matin, je regarde avec vous, je reste, on verra la réparation et le changement la semaine prochaine. Ce matin, je reste avec vous sur ces deux points importants et j'insère dans ces deux points, prise de conscience et confession. Vous pouvez mettre l'image suivante, frère, j'ai perdu la main. Et on lit 1 Samuel chapitre 15, on va voir l'exemple de Saül. Puis après, on verra un autre exemple tout à l'heure avec David. Mais pour l'instant, 1 Samuel chapitre 15, verset, on peut prendre à partir du verset 10. 1 Samuel chapitre 15, verset 10. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe pas mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller, visiblement il a plaidé pour Saül. Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül. Et on vint lui dire, Saül est allé à Carmel. Et voici, il s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Et Samuel lui dit, « Mais qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Saül répondit, « Ils, en l'occurrence le peuple, ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. » L'Éternel, ton Dieu ? Il ne pouvait pas dire l'Éternel, mon Dieu ? Bizarre ça. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, je vais te dire ce que l'Éternel m'a révélé cette nuit. Saül lui dit, parle. Et Samuel dit à Saül, lorsque tu étais petit, à tes propres yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur tout Israël ? L'Éternel t'avait fait partir en disant, « Va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel ? Saül répondit à Samuel, « Mais j'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel il m'envoyait. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. » Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices, autant que dans l'obéissance à sa voix ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de la parole vaut mieux que la graisse des béliers. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché et de grand péché. La désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie. La résistance à Dieu n'est pas moins coupable que l'idolâtrie. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Mais je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai pas avec toi parce que tu as rejeté sa parole. Et aujourd'hui, l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se retournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël. Et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « J'ai péché. Maintenant, je t'en prie, honore-moi en présence des anciens et du peuple et en présence de tout Israël. Reviens avec moi. J'adorerai alors l'Éternel, ton Dieu. Amen. » Comment un homme qui a été choisi de Dieu, quand vous lisez son histoire, comment un homme qui a été oint par Dieu, il avait reçu l'onction royale, comment cet homme peut-il un jour s'entendre dire « L'Éternel te rejette » ? Comment un homme qui était habitué aux victoires va-t-il s'enfoncer toute la suite de l'histoire jusqu'à la fin du premier livre de Samuel, où, submergé par ses ennemis, il va préférer se suicider au champ de bataille. Comment on peut en arriver là ? Comment un homme comme David, oui, un homme selon le cœur de Dieu, mais comment David, avec ce qu'il a fait, il était en train de se promener sur le toit de sa maison royale. Il n'était pas à sa place au champ de bataille avec ses hommes. Il était en train de se relâcher spirituellement parlant. Il voit Bathsheba. Il la fait venir. Il couche avec elle. Pour essayer de camoufler ensuite son adultère, il va donner des ordres explicites pour que Ouri rentre, qu'il boive un petit peu trop et qu'en ayant bu un peu trop, il aille coucher avec sa femme pour bien dissimuler l'adultère au cas où elle serait enceinte. C'est quand même machiavélique. Et comment se fait-il alors que Ouri a dit « Mais non, mon Seigneur, mes hommes sont au champ de bataille, je ne peux pas prendre plaisir dans ma maison. Je te remercie, roi David, mais moi je retourne auprès de mes hommes. » Et comme du coup, c'est embêtant parce que David est très gêné parce que du coup, Ouri ne va pas coucher avec sa femme. Donc, David donne des ordres pour que Ouri soit placé en première ligne. David est en train de donner des ordres pour que Ouri meure au champ de bataille. Et c'est exactement ce qui va se passer. Comment un homme qui a, comme Saül, une impatience, une désobéissance, se retrouve rejeté par Dieu, et un homme qui est responsable d'adultère et d'une forme de meurtre par préméditation, il est restauré. Depuis l'Éden, jusqu'à nos jours, le principe est toujours le même. Quel que soit le péché, la forme du péché, c'est toujours extrêmement sérieux, extrêmement grave aux yeux de Dieu. Mais la puissance de son sang et de son œuvre à la croix sont infiniment plus puissantes que la puissance du péché. Et ce qui va libérer la puissance du péché, du pardon et de la restauration dans la vie de ceux qui ne sont pas encore à Christ, comme de ceux qui sont déjà à Christ, ce qui va libérer le pardon et la restauration, c'est la repentance. Parce que depuis l'Éden, c'est toujours la même histoire. Il y a ceux qui se repentent et il y a ceux qui ne se repentent pas. Et voilà comment un homme comme Saül, par orgueil, il est tombé parce qu'il a refusé de se repentir quand il en avait l'occasion et il s'est endurci, il s'est entêté. On pourrait faire la même avec le roi Asa, on ferait la même avec Lot, on ferait la même avec Salomon, on ferait la même avec le roi Ozias. On pourrait prendre des tas d'exemples dans l'Écriture de rois, des hommes qui étaient loin de Dieu, qui avaient été choisis de Dieu. Pour certains rois, on peut même les considérer à la lumière de leur œuvre, réellement parce qu'ils ont ramené le peuple à la parole de Dieu, à l'adoration de Yahvé, le seul vrai Dieu. Certains étaient des hommes de réveil. Et en l'espace de quelques temps, à la fin de leur vie, ils ont tout perdu. Je ne sais pas, frères et sœurs, pour vous, mais moi, ça me fait sérieusement réfléchir à la grâce que Dieu me fait quand il me dit « Tu vois ça dans ton cœur, je ne suis pas d'accord avec toi, je t'aime, règle-moi ça, je voudrais te bénir. Règle ça avec ton époux ou ton épouse. Je voudrais bénir ton couple, au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Demande pardon à tes parents. Demande pardon à tes enfants. Règle ce que tu as à régler avec ton frère, avec ta sœur, de sang ou spirituellement parlant. Règle ce que tu as à régler. J'ai tellement envie de te bénir. » Et on voit dans le récit ici, en réalité, trois étapes, il y a trois axes dans l'attitude de Saül qui sont des axes contraires à la repentance. La première chose, c'est que Saül est quelqu'un qui aime beaucoup cultiver l'apparence. Saül se fait tout de suite passer pour ce qu'il n'est pas. Il va commencer à jouer un rôle. Dès que Samuel arrive, tout de suite, il y a un masque. J'ai observé la parole de l'Éternel. Quel menteur! Il se fait passer pour un observateur respectueux de la parole de Dieu, mais les faits sont là. Samuel va mettre le doigt sur des circonstances qui sont embarrassantes. C'est quoi ce bêlement de brebis, ce mugissement des bœufs que j'entends ? L'Éternel, quand vous relisez le début du chapitre, Dieu avait été clair. Les Amalécites sont un peuple qui descend d'Ésaü. C'est un peuple que Dieu a en horreur. Spirituellement parlant, c'est un type de la nature charnelle pour nous, et Dieu a en horreur ce peuple d'Amalek. Il a des raisons passées pour que ce peuple soit exterminé, parce que déjà dès l'Exode, c'est Amalek qui fait la guerre à Israël, Exode 17, quand Josué est dans la vallée, etc., et que Moïse a les bras levés, qu'il intercède. Qui est en train de combattre Israël ? C'est déjà Amalek qui pose problème, c'est la nature charnelle qui pose problème dès le début de l'histoire, dès la sortie d'Égypte, dès la conversion. Qu'est-ce qui pose problème ? C'est Amalek. Amalek, c'est un type de la nature charnelle qui lutte contre les valeurs de l'esprit en nous. Et puis en plus, Amalek, avec son roi Agag, il faut qu'il soit exterminé, parce que quelques siècles plus tard, quand vous lisez le livre d'Esther, cette tentative de génocide qui est fomentée par Aman, Aman c'est qui ? C'est un Agagite, c'est un Amalécite, c'est un descendant de cette lignée. Donc Dieu a ses raisons, il dit, il faut exterminer, et tu ne laisseras rien, aucun bœuf, aucune brebis, tu ne laisses rien, tu me détruis tout ça. Le Seigneur a ses raisons, il sait ce qu'il demande et pourquoi il le demande. Mais Saül, lui, n'a pas obéi. Et au lieu de reconnaître l'évidence, Saül, va passer à l'étape 2, mais malheureusement à l'étape 2 d'un engrenage qu'il ne maîtrisera pas. Et là, il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de prise de conscience, il n'y aura pas de confession. Il y a juste surtout de l'accusation et de l'auto-justification. Saül répondit, verset 15, « Ils, le peuple, les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis, mais le reste, nous l'avons dévoué par interdit. » En d'autres termes, voyez frère, ce qui marche, c'est grâce à moi, mais ce qui n'a pas marché, c'était les autres. Ce qui a raté, c'est l'autre. Ce qui a réussi, c'est moi. Et voyez, ça, s'il y a une chose que Dieu déteste, pardonnez-moi de le dire ainsi, je ne minimise pas le péché, hein. S'il y a une chose que Dieu déteste encore plus que l'adultère, c'est d'avoir des gens, quand il les a pris et qu'il les a mis au pied du mur, et c'est par amour que par le Seigneur, parfois le Seigneur nous met au pied du mur, c'est que étant au pied du mur, David a dit, oui, je suis cet homme-là. Saül, lui, il a accusé, il a cherché à se justifier. Et là, on a cette nature charnelle, malheureusement, dans toute sa splendeur. Même au pied du mur, même bloquée, acculée dans un coin, elle va quand même encore chercher à nier sa responsabilité et à rejeter la faute sur les autres. Depuis l'Éden, Adam accuse Ève, Ève se retourne contre le serpent. Le pharisien fait valoir ses œuvres et il accuse le publicain. Le fils aîné fait son propre éloge et il salit son frère aux yeux de son père, etc. C'est toujours, toujours, toujours la même histoire. Et puisque Saül commence à faire l'anguille, vous savez, bien aimé, l'attitude de cœur aux yeux de Dieu, elle est primordiale, c'est plus important que tout. Que le Seigneur ne nous demande pas d'être des gens parfaits. On l'a entendu ce matin dans la lecture, sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous ramène à son image, par sa grâce, par sa communion, par la parole, par l'esprit, par la prière, par la piété. C'est lui qui nous ramène. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Le Seigneur ne nous demande pas d'être parfait, c'est lui qui va gérer cette question en nous. Le Seigneur nous demande d'être vrai. Il nous demande d'être droit. Il nous demande d'être honnête. Parce que s'il y a une chose que Dieu déteste encore plus que l'adultère, vous savez ce que c'est, regardez-moi bien, c'est ça. Vous pouvez essayer, toujours. Parce que le seul animal qui se déplace sur cette terre comme ça, c'est le serpent. Et c'est pour ça que Dieu a été aussi dur avec Saül. Parce que derrière, il y a son orgueil et il y a un état d'esprit qui est là en train de se révéler. D'ailleurs, Samuel est plus clair, du coup, puisque Saül fait l'anguille, Samuel va être plus clair et plus précis, il va le confronter à son orgueil, à sa désobéissance, et il lui dit, est-ce que tu te rappelles, quand tu étais petit à tes propres yeux, comment Dieu t'avait béni ? C'était une façon de lui laisser une nouvelle occasion de se repentir, de reconnaître, de dire « Oui, c'est vrai, c'est moi, pardonne-moi. » Mais même ça, c'était encore trop pour lui. Alors Saül, vous avez compris, s'entête dans le mensonge, dans l'accusation. Verset 20, verset 21, il insiste, même le prix, pardonnez-moi, mais même la main dans le sac. J'ai obéi. Non, t'as pas obéi. Et puis Saül va encore s'enfoncer et il va passer à l'étape 3 d'un plan intérieur qui va lui être fatidique, d'un état d'esprit qui va lui être fatidique. Il va simuler. Il va révéler réellement toute sa capacité à jouer l'apparence. Alors Saül dit à Samuel, « J'ai péché, je n'ai pas obéi. » On peut se dire, ben c'est bon, ça y est, il a compris, il y a quelque chose en lui qui... Non, ce sont des mots, mais il n'y a pas de conviction de cœur. J'ai péché, je n'ai pas obéi, car je craignais le peuple et j'ai écouté sa voix. En d'autres termes, bon, c'est vrai que je ne suis pas clean, mais vous savez, il y a quand même pire que moi. Puis vous comprenez, j'avais des bonnes raisons de... En apparence, il y a confession, mais la réalité de cœur est différente. En d'autres termes, Saül est en train de dire, c'est vrai que j'ai... C'était pas clean ce que j'ai fait, mais j'avais des bonnes raisons. Comprenez, j'avais des bonnes raisons de mentir. Il fallait bien que... Je fais regarder Jésus. Je fais regarder Jésus ensanglanté sur la croix. La couronne d'épines qui est pour moi, qui est sur son front, son sang qui dégouline, son dos qui ressemble plus à rien, ses mains, ses pieds percés. Je le regarde et je lui dis, tu sais Seigneur, ben, fallait bien que je pêche, je n'avais pas le choix. Ça ne peut pas fonctionner. Et Dieu me dit, je t'aime, mais je ne peux pas te bénir dans ces conditions. La preuve que son cœur n'est pas repentant. Saül pose ses conditions. Pardonne mon péché, reviens avec moi, honore-moi en présence des anciens et je me prosternerai. Ah non, 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 non. Ah non, je suis désolé. Tu vas d'abord humilier ton cœur devant ton Dieu. Tu vas régler ce que tu as à régler. Et ensuite, Dieu reviendra vers toi. Mais ce n'est pas à moi de revenir dans tes conditions. Honore-moi. Ah non, non, non. Humilie-toi, frère. Humilie-toi, ma sœur. Et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Mais on est où, là? Il ne pouvait pas dire l'Éternel, mon Dieu. Et vous voyez que déjà dans son processus, la dégringolade a été très vite. Il a décroché si vite d'avec Dieu. Saül était beaucoup plus soucieux de son honneur, de son apparence, que de la présence de Dieu. C'est vrai que ce que David a fait n'était pas joli joli, c'était même hautement répréhensible. Mais quand le prophète Nathan est venu le voir et lui a dit « Voilà ce que tu as fait, David. » David a dit tout de suite « Oui, c'est vrai, je suis cet homme-là. » Et quand il a prié, psaume 32, psaume 51, il n'a pas dit « Honore-moi ». Il a dit « Seigneur, ne me rejette pas loin de ta face. » Ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que ce qui comptait pour David plus que tout, c'était la présence de Dieu dans sa vie. Et ce qui comptait pour Saül plus que tout, c'était son image de marque. À partir de ce moment-là, Saül continue à s'endurcir, à s'éloigner de Dieu jusqu'à la fin tragique que je vous ai décrite, que vous pouvez relire. Mais je vois que David... On va parler de David maintenant. Tous ceux qui ont présenté à Dieu un cœur repentant ont été justifiés, pardonnés, restaurés. Je veux simplement, pour terminer, lire avec vous dans le livre des Chroniques, s'il vous plaît. On va prendre 1 Chronique, chapitre 21. Le récit que nous allons lire est rapporté dans deux passages, mais on va lire celui qui se trouve dans le livre des Chroniques, s'il vous plaît. Premier livre des Chroniques, chapitre 21. Premier livre des Chroniques, chapitre 21. On va lire les 8 premiers versets. Chroniques chapitre 21, verset 1er. Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. David dit à Joab, Joab c'est son chef d'armée, et au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Mais, roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Pourquoi mon Seigneur le roi demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi David persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab, et Joab partit et parcourut tout Israël, puis il revint à Jérusalem. Joab remit donc à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée en Juda et 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et Dieu dit, et David dit à Dieu, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi, complètement agi, en insensé. Amen. » Je tenais à prendre cet exemple de la vie de David pour montrer son cœur qui restait toujours disposé à se repentir, parce que c'est un des récits qui sont les moins connus de la vie de David. Vous savez, quand on pense à David, très souvent on pense à deux choses. Sa victoire contre Goliath, un bon point, et puis son adultère avec Bathsheba, un mauvais point. Et souvent on a une vision assez schématique, assez caricaturale. Mais en réalité, peu importe les erreurs, les fautes, les péchés qu'il a pu commettre, en réalité David a eu dans sa vie, il a eu trois moments d'égarement terrible. Le premier, je vous en ai parlé, c'est quand, poursuivi par Saül, au bout d'un moment, il craque sous la pression, et puis il va se réfugier chez les Philistins, chez le roi Achish, 1 Samuel chapitre 27 et suivant. Et puis, il manifeste un cœur repentant, il revient, il prend l'éphod, son désir, c'est le symbole de son désir de se reconnecter, de se renouer à la présence de Dieu. Pendant 16 mois, il était à la ramasse, 16 mois, il s'est rendu au Dieu, à Israël, son peuple, et donc à Dieu lui-même. Et ça, c'était son premier moment. Un peu plus tard, une fois qu'il est bien installé dans la royauté, c'est là que malheureusement, il y a le récit abject avec Bathsheba et la mort préméditée de Ouri. Et puis, beaucoup plus tard encore, là, David est vraiment très, 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 très bien installé. Ça fait bien longtemps. Et David, ici, à cette époque-là, beaucoup plus tardive, ordonne le dénombrement de ses forces armées. De la même façon qu'à un moment, Saül a, par impatience, procédé à un sacrifice. Il a désobéi. On pourrait se dire, en apparence, il n'y a pas... Et puis là, on pourrait se dire, mais finalement, David, il a fait quoi de mal? Il a compté ses hommes. C'est grave. Il a voulu savoir combien il y avait dans l'armée pour défendre Israël au cas où, vous comprenez, si jamais il y avait une coalition de rois ennemis, ben en définitive, ça peut très bien se justifier. J'ai besoin de savoir de combien d'hommes je dispose pour le royaume, pour le défendre. Non, 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 non. À ce moment-là, David est en train, je ne minimise aucun péché, mais il est en train d'être piqué par quelque chose qui est pire que l'adultère, et je ne minimise aucun péché, on est d'accord, hein, le péché restera toujours le péché, ça a nécessité Jésus à la croix. Il est en train d'être piqué par un orgueil naissant, et ça c'est pire que tout. Et Joab, en discutant, son chef d'armée, en discutant avec lui, a vu que dans son cœur, excusez-moi, le gars il commençait à avoir une tête, commencer à avoir des chevilles. Et ce n'est pas un simple recensement, mais c'est que son cœur est en train de s'élever. Et effectivement, par la grâce, par la seule grâce de Dieu, David était devenu très puissant. Une armée, et encore Joab n'a même pas fini le dénombrement parce qu'il trouvait ça abominable, il savait que c'était une faute de faire ça, et Joab a essayé d'en dissuader David, il a essayé de le dissuader de l'orgueil, mais il a dû obéir, et Joab a fait ce dénombrement, mais il n'a quand même pas tout fait, et malgré ça, sans avoir fini le dénombrement, 1 500 000 hommes, vous vous rendez compte, on est en moins 1000 avant Jésus-Christ, une armée pour un pays comme Israël, ce n'est pas énorme, 1 500 000. David est un roi extrêmement puissant. Et là, David le sait, et il est en réalité en train de s'appuyer sur ses forces armées, il est en train de s'appuyer sur lui-même, il est en train d'élever son cœur. Et élever son cœur, c'est ce que Dieu a en horreur par-dessus toute autre chose, parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et David, alors qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu et qu'il avait toujours eu cette humilité, toujours pris le Seigneur pour force, pour appui, pour refuge, pour secours, etc., etc. Il y a tellement de passages magnifiques dans la Bible et dans les psaumes à son sujet, dans sa relation avec Dieu. Et là, David, c'est la troisième fois dans sa vie qu'il est en train de s'égarer, sévèrement. Mais cet égarement-là risque d'être encore bien plus grave et bien plus dommageable que les deux précédents, parce qu'il s'appelle l'orgueil. Que ce soit dans le corps pastoral ou dans la vie des disciples dans les églises, j'ai vu beaucoup plus de gens revenir de l'adultère, de la pornographie, de l'alcoolisme, de la cigarette, de tout ce que vous voulez, que de gens se repentir de leur orgueil. Et c'est pour ça que le Seigneur, à ce moment-là, va frapper fort et qu'il va frapper très fort. Il va frapper au sein du peuple. David est en train de s'élever. C'est la pire chose qui pouvait arriver à son cœur. Mais heureusement, quand il prend conscience, on l'a lu au verset 8, quand il prend conscience de son égarement, tout de suite, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Daigne pardonner mon iniquité, Seigneur. » J'ai été insensé dans cette histoire. Vous pourrez lire 2 Samuel, les versets 24, 1 à 10, et même plus loin encore jusqu'à 17. David dit dans cette version du récit, 2 Samuel 24, 10, je le lis pour vous. David sentit battre son cœur après avoir fait le dénombrement. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. La fin est la même. Mais 2 Samuel 24, 10 apporte cette précision. David sentit battre son cœur. Je vais dire encore quelque chose qui peut être choquant. Oui, c'est vrai que le péché, quelle que soit sa forme, est une abomination puisqu'il a coûté le sang de Jésus à la croix. Mais Dieu, dans sa préscience, savait de toute façon ce que nous ferions avant que nous le faisions. Et il connaissait nos péchés avant même qu'eux. C'est ce qui me fait dire, sans jamais minimiser le péché ni la repentance, le plus gros problème, frères et sœurs, dans la vie d'un chrétien, d'un disciple, d'un pasteur, dans un couple, dans une église, le plus gros problème n'est jamais le péché. Le problème, c'est comment nous allons nous comporter après avoir compris que nous avons péché. Et ça ne minimise pas le péché, ce que je dis, vous comprenez bien. Mais je dis ça parce que je sais que dans la croix, dans l'œuvre de Jésus, dans son sang, il y a une puissance bien supérieure à la puissance du péché. Et elle était prévue de toute éternité. Avant même la chute en Éden, tout était déjà prêt. La puissance de la croix était déjà prête et elle était déjà agissante d'une certaine façon. Ce qui me fait dire, peu importe qui tu es, peu importe à quoi tu en es, peu importe ce que tu aurais pu faire ou pas faire, peu importe ce que, effectivement, l'Esprit voudrait montrer à ton cœur, le problème n'est jamais ce que l'on a fait. Le problème n'est jamais réellement le péché en lui-même, puisque la solution est déjà prête à la croix. La véritable question, c'est comment allons-nous réagir après ? David sentit battre son cœur. Il avait gardé cette sensibilité à l'esprit, il avait gardé un cœur vrai, un cœur honnête. Tout de suite, il a senti qu'il était en train de dérailler, qu'il était sur une voie extrêmement dangereuse et pernicieuse, destructrice. Il n'a pas eu besoin qu'on lui démontre que son attitude était répréhensible. Il n'a pas eu besoin d'une phase 1, d'une phase 2, d'une phase 3 pour que finalement ça se termine mal. David, tout de suite, en prenant conscience, il a refusé d'accuser les autres. 2 Samuel 24, 17. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, ô Dieu, j'ai péché, c'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'est-ce qu'elles ont fait ?» Et voyez, ça c'est l'attitude de cœur qui, au-delà de ce que nous aurions pu faire ou pas faire, au-delà de ce qui est répréhensible ou pas dans nos vies, c'est l'attitude de cœur qui fait toujours toute la différence. Pas de justification, pas de dissimulation, pas d'échappatoire, pas d'accusation. Prompt à se laisser convaincre, prompt à demander pardon, prompt à régler sa vie avec Dieu. Voilà l'attitude de cœur qui plaît au Seigneur. Je termine avec cela. Je sais que ce genre de message est toujours un petit peu plus lourd, mais c'est toujours dans la grâce et dans l'amour que le Seigneur nous communique ses vérités. Mes bien-aimés, depuis l'Éden, je termine avec ça, c'est toujours la même chose. Au-delà de nos faiblesses, au-delà de nos manquements, au-delà de nos péchés, au-delà de nos négligences, au-delà de nos circonstances, au-delà de nos blessures, au-delà de la forme pratique de nos échecs, le principe est toujours le même. Il y a ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Il y a ceux qui vont invoquer Christ, leur justice, et ceux qui vont chercher à se justifier eux-mêmes. Il y a ceux qui se désignent coupables et ceux qui accusent les autres. Il y a ceux qui reconnaissent leurs fautes. Et puis, il y a ceux qui vont toujours trouver des circonstances atténuantes. Il y a ceux qui se repentent et ceux qui ne se repentent pas. Tout se résume ainsi. Et c'est comme ça que ceux qui ont présenté à Dieu un cœur repentant, quelle grâce de pouvoir revenir, ont toujours été justifiés, pardonnés et pleinement restaurés. Voilà pourquoi la repentance demeurera toujours une véritable grâce. Amen. On peut se recueillir, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Jésus, merci parce que il y a dans ta grâce, dans ta compassion, dans ta miséricorde, dans ton amour, dans ton œuvre à la croix, toute la puissance nécessaire pour venir à bout de la puissance du péché. Et je te bénis de ce que rien n'est plus puissant que toi. Rien n'est plus puissant que ton œuvre et que ton sang à la croix. Merci parce que tu nous aimes, tu nous connais si bien. Tu lis en nous comme dans un livre ouvert. Tu sondes nos cœurs, tu sondes nos pensées. Le moindre de nos regards, tu le connais, Seigneur. Tu sais à notre sujet, tu sais à mon sujet, même des choses dont je n'ai même pas conscience moi-même. Seigneur, accorde-moi la grâce et à chacun de mes bien-aimés qui sont là, à chacune des personnes nouvelles qui sont là ce matin, à chacun des disciples qui sont présents aussi dans ce lieu. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de rester des hommes selon ton cœur. Prompt à régler ce qu'il y a à régler devant toi et avec qui je dois régler. Seigneur, je ne veux jamais oublier que ce message de repentance est un message d'amour, motivé par ton amour, motivé par ta grâce et ton désir de bénir. Je veux aplanir le chemin de mon cœur. Je veux dégager les pierres et les obstacles qui peuvent y subsister, Seigneur, parce que je sais que tu as soif de me bénir et de me visiter avec ton cortège de bénédictions. Parce que je sais, Seigneur, que tu as plus envie de me bénir que moi-même d'être béni. Parce que je sais, Seigneur, que tu as tellement de bonnes choses en réserve pour moi. Et je veux te permettre d'agir ainsi librement en moi et autour de moi, dans mon cœur, dans mon couple, dans ma famille, dans mon église. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Que ton nom soit loué. Merci pour ta parole. Merci pour Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Voilà, je suis heureux de voir qu'il y avait plusieurs personnes nouvelles parmi nous ce matin encore. Sachez que si vous désirez avoir un évangile, une Bible, si vous avez besoin d'un entretien, vous voulez en savoir plus,